L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Une émission particulière aujourd'hui. Nous nous intéressons à la vieillesse. Vieillir, prendre de l'âge, se bonifier avec le temps. Entrer doucement dans ce moment de vie par lequel on donne un sens, un corps à tout ce qu'on a été avant. Pour cela, nous diffusons un extrait de la conversation organisée par le Centre psychanalytique de consultation et traitement et le collectif Les Voix de Marseille, avec l'aimable autorisation des organisateurs et participants.
Irma ira dans l'île, y chercher des iris, d'igue-donda, d'ondaine, et des petites fleurs de lys, et des volubilis.
Donc je vous propose qu'on commence tout de suite la conversation, qui est toujours un pari. C'est la différence entre ce qui relève de la conversation et relève de l'exposé académique, où on lit ce qu'on a écrit. Donc je vais commencer, si vous voulez bien, Laura Adler, par vous poser une question, mais lire ce que vous écrivez dans La Voyageuse de nuit, je cite l'édition de poche, pour ceux qui veulent s'y référer, ah, les universitaires sont insupportables, je lui donne les références très précises, je passe 114. La douleur du vivant. L'impossibilité de considérer la vie comme n'allant plus de soi quand on perd celle qui vous l'a donnée. Comment unir la femme, l'homme qu'on est avec l'enfant qu'on a été? Comment ne pas s'émietter, rester en apparence entier? Comment relier l'existence d'avant et celle d'après tout en conservant la sensation de la continuité du monde? Et je dois dire, quand j'ai lu cette phrase, et je me suis arrêté un moment pour me dire qu'au fond, c'est ce dont vous parliez, je dirais si vous êtes d'accord, c'est une forme d'épreuve, des marques du temps pour lesquelles vous avez essayé d'écrire notamment ce texte. Vous seriez d'accord ?
Oui, tout à fait. Au départ, c'était une décision intellectuelle, mais comme souvent les décisions intellectuelles, elles vous emmènent vers le sensible, vers l'émotionnel, vers le réflexif, vers l'auto-réflexif et vers tout ce qui fait mouvement à l'intérieur de vous. Et au moment où j'avais décidé de tenter d'écrire sur la vieillesse, c'était uniquement parce que j'avais été éblouie par un livre de Simone de Beauvoir, qui, depuis la fin de mon adolescence, ne cesse de m'éblouir, un livre que j'avais lu quand j'étais jeune, « Ce qu'il ne faut jamais faire », celui de Simone de Beauvoir s'intitulait tout simplement « La vieillesse ». Et j'avais été absolument bouleversée, non seulement par la qualité de son enquête, qui était à la fois anthropologique, littéraire, psychologique, comparatiste, mais aussi par la profondeur de sa conclusion et de son épilogue. Elle disait qu'une société ne se mesurait qu'à la manière, c'était son critère principal pour elle, qu'à la manière dont elle traitait ses vieux. Et elle disait, nous sommes à la fin donc des années 60, et elle disait, en France, c'est un cruel panorama, c'est un cruel constat que de constater, enfin que de cartographier pendant de nombreuses années ce que j'ai pu faire, à savoir qu'on stigmatise les vieux, qu'on les éloigne, qu'on ne veut pas les voir, qu'on les invisibilise de toutes les manières possibles. Donc c'est un travail politique qui nous attend. Et puis ce qui m'a rattrapée, c'est cette période, je crois, que beaucoup de gens peut-être connaissent en ce moment, peut-être ont déjà connu et peut-être s'apprêtent à connaître, qui est très compliquée, très douloureuse, qui est, pour parler brutalement et schématiquement, qui est de devenir soi-même le parent de ses propres parents. Et de devoir... Enfin, c'est même pas un devoir. On réfléchit pas en termes de devoir, mais un nouveau chemin de l'existence s'ouvre. On sait que il sera sans doute assez court. En même temps, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, mais la vie bascule, la perception de la vie bascule aussi. Et je dirais simplement que par rapport à la disparition de ma mère faisait partie des gens qui étaient très militants pour l'association du droit à mourir. Et nous étions toutes les deux adhérentes de cette association, contre d'autres membres de ma famille très proche. Et quand ça a commencé à aller très mal, j'ai proposé à ma mère de faire venir quelqu'un de cette association dans l'endroit où elle se trouvait. Et elle n'a pas voulu. Et ensuite, quelques temps plus tard, quand l'irréparable se profilait à l'horizon, je lui ai dit « Est-ce que tu veux parler à quelqu'un ?» Et elle n'a pas voulu. Et quand nous nous sommes retrouvés face à l'inexorable et que les médecins m'ont prévenu de l'irréparable, et je dois rendre hommage à l'EHPAD parce qu'on entend beaucoup de mal des EHPAD, mais ma mère, après une enquête très approfondie de ma part, mais je dois dire que ma mère a été extrêmement bien accompagnée par l'EHPAD, et j'avais un ami qui pouvait venir, et elle m'a dit non. Donc voilà, beaucoup de contradictions, beaucoup d'interrogations que je ne me permettrai pas de trancher, parce que je crois que nous sommes toutes et tous devant des nœuds gordiens de l'existence où nous ne savons pas comment nous allons être submergés, comment il ne faut pas être submergés en même temps. Mais ma mère, pour revenir à elle, jusqu'au bout, elle a voulu vivre. Elle a voulu vivre sa mort. Voilà. Et finalement, elle m'a permis d'être là, pas jusqu'au bout. Je terminerai par là, parce que quand la dernière phase est venue, le médecin et les médecins qui l'accompagnaient avec un processus assez complexe mais qu'il maîtrisait complètement, m'ont dit « il faut que vous partiez de la chambre ». Ça faisait 3-4 jours que l'agonie avait commencé. Et j'ai dit « mais je vais pas quitter cette chambre, ça fait 4 jours et 4 nuits que je suis là, c'est pas maintenant que je vais m'en aller ». Et ils sont partis, un seul est resté, et l'un m'a dit « je vous demande de partir et vous allez partir avec moi ». Je lui ai dit non. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « l'EHPAD est fermé, je vous demande de quitter cette chambre, je vous accompagnerai jusqu'à la rue, mais ce n'est plus une demande, c'est un ordre ». Alors je lui ai dit « mais comme une élève obéissante, je suis sortie de cette chambre en tremblant, avec beaucoup de... je savais plus qui j'étais, où j'étais. Et il m'a dit dans le couloir, avant de me laisser dans la rue, il faut que vous partiez parce que votre mère ne peut pas partir si vous êtes à ses côtés. Et je vous appellerai. Et je suis sortie dans la rue et 10 minutes après, il m'a appelé sur le portable. Voilà.
Oui, je vous remercie de ce que vous avez rapporté, qui touche à l'intime. Macha Makiev, vous voulez embrayer sur ce moment ?
Il y a plusieurs façons d'échapper à la vie, oui. C'est comme un roman, en fait, et c'est à cause de ce moment où on s'éteint qu'on a un destin. Avant, on n'est pas sûr d'en avoir un. Donc cette sortie-là, oui, c'est, c'est encore d'une éloquence incroyable. C'est ce qui va faire de notre vie un scénario. Et c'est un geste très fort parce que c'est ce qui donne le destin aux autres et surtout à sa progéniture. Donc on a tous perdu celle qui nous a, enfin pour moi en tout cas, quelqu'un qui nous a accompagnés d'une façon ou d'une autre, celui qui nous a donné la vie. Mais je trouve que ça a très souvent une grande élégance. C'est comme quelqu'un qui s'absente et qui effectivement demande « Est-ce que tu veux bien aller un peu plus loin pour que je puisse partir, s'il te plaît ?» Et même si c'est qu'un regard, oui, c'est une chose que j'ai moi-même décelée. C'est pour ça que je suis très émue d'entendre Laure dans ce récit, parce que ça fait vraiment écho aussi. Mais c'est tellement important ce moment-là qu'on essaie d'effacer dans nos sociétés. C'est tellement important de dire, d'affirmer par ce geste ou par cette demande, j'ai existé, et qu'il n'y a pas d'existence sans ce dernier geste. Et si on pouvait laisser ici et là, chacun, chacune, s'exprimer à cet endroit-là, avoir l'absolue liberté de se retirer comme il ou comme elle le souhaite, d'une façon tragique ou d'une façon très discrète, selon son destin et selon ce qu'elle a exprimé à la société. Voilà, c'est une chose, j'emploie ce mot, à mettre en scène. Et il faut vraiment laisser chacun et chacune d'entre nous et d'entre eux et d'entre elles mettre en scène cette partie-là de l'existence qui va être la révélatrice de son destin.
Laure Adler, qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont Macha fait référence à mettre en scène ce moment-là, une fiction?
Ben, j'ai beaucoup d'admiration, et elle le sait, pour le travail de Macha depuis très longtemps, parce que justement, elle met en scène, mais mettre en scène, ça peut avoir différentes significations. Ça peut vouloir dire mettre en lumière de manière forte. Ça peut vouloir dire justement dévoiler quelque chose de notre propre intimité de manière poétique. Et ce, par un travail quasi analytique et plus ou moins inconscient de la part des spectateurs, de nous donner à voir, nous spectateurs, ce qui, sur le devant de la scène, est rendu visible. Et c'est ce que fait Macha depuis des décennies, à la fois par son travail de metteuse en scène de théâtre, de directrice d'acteur, mais aussi d'artiste et de conceptrice d'exposition. Mais ce qu'il y a chez Macha revêt aussi une profondeur psychologique qui touche au plus intime et au plus intérieur d'entre nous, parce que, et je me souviens d'un texte de toi, Macha, il y a quelques années, parce que ça touche à la douleur. Ça touche à la douleur, et le mettre en scène de Macha, c'est pas le mettre en scène tonitruant de certaines comédies musicales où on vous promet le bonheur à la sortie. Mais c'est quelque chose qui va dévoiler des mécanismes intérieurs qui sont ourdis peut-être depuis la haute enfance, non ?
Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que je suis très touchée que tu dises ça, parce que dans la vie, on ne se dit pas des choses comme ça. Il faut une tribune pour entendre ça. Et l'exercice d'admirer une femme, c'est quelque chose auquel je m'applique chaque jour. Celles qui étaient avant, celles qui arrivent, celles qui ont été, c'est un exercice. Je pense que si on emploie ce mot-là, c'est mon féminisme à moi, c'est l'admiration des autres femmes. Bien sûr, il y a dans le travail artistique une question de vie et de mort toujours, même si moi je vais du côté de la fantaisie et de l'humour, mais il n'est question que de ça, que de se sauver, parce qu'il a fallu se sauver dans l'enfance, et que ce pacte avec cette petite fille qui s'est sauvée continue, et Et c'est pour ça que la façon dont on quitte la vie, c'est très important, parce que c'est une façon de se sauver. Il faut échapper à la vie. C'est très important, et je trouve que très souvent, alors ça c'est le côté décor, hein, je trouve que très souvent le décor est quand même assez pauvre. C'est assez misérable, généralement c'est bilan comme tout. Et cependant, c'est transcendé par cette révérence, cette dernière révérence. Ce qui est bien, c'est que la souffrance souvent disparaît, ou a disparu dans nos sociétés, Dieu merci. Mais je pense que ça se décide dans l'enfance aussi, d'aller jusque-là et de savoir, de devoir partir et de savoir le faire d'une certaine façon. Je comprends tellement qu'on n'ait pas envie d'être regardé. Moi qui ne travaille que sur le regard, et sur le regard que je suppose que ceux et celles qui vont venir voir auront, qu'à cet endroit, ce soit autre chose qu'un regard, que ce soit justement cette suspension du regard qui fait qu'on peut s'échapper. On n'existe que par le regard des autres. On est une petite fille parce qu'on vous a regardé comme une petite fille. On est juif ou pas juif, ou noir ou pas noir, parce qu'on vous a regardé comme ça. On est vieux aussi parce qu'on vous regarde comme ça. Mais à cet endroit-là, pas de regard. On part de cette façon-là, dans cette suspension du regard. C'est quelque chose peut-être à mettre en place aussi dans le décor qui est proposé à cet endroit-là. Les gens qui ont la chance de partir quand ils sont chez eux, avec une couverture qu'ils aiment, avec une lumière qu'ils aiment, une vieille lampe, c'est bien. Après, voilà, il faudrait peut-être imaginer un peu plus de douceur dans les lieux de révérence, où on tire sa révérence. Un autre théâtre, en fait. Voilà. Mais il y a quelque chose d'un geste théâtral. Et d'ailleurs, le théâtre le sait bien qu'il est question de vie et de mort, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps sur ce chemin de crête. Et très souvent, on rit, on fait rire, parce que sinon, l'abîme, on sait très bien que l'abîme est juste à côté.
Pour faire suite à cette conversation, je vous propose de lire ensemble un extrait, le tout début en réalité, du titre d'Isabelle de Courtivon, « L'été où je suis devenue vieille ». C'est en édition poche, chez Proche. Cet été-là, pendant un cours de yoga, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de difficultés à faire les asanas habituels. Mon équilibre était devenu un défi. Mes jambes et mon dos étaient moins souples, et après plusieurs salutations au soleil, je me sentais essoufflée. Puis, les preuves se sont accumulées. En descendant les escaliers du métro, je m'agrippais à la rampe. De plus en plus de personnes me laissaient leur place assise. J'hésitais entre les remercier et me sentir insultée. Dans les jours qui ont suivi, mon ophtalmologue a prescrit une opération de la cataracte. La cataracte, une maladie de vieux. Ces dernières années, la correction de mes verres augmentait, mais je n'y voyais qu'une occasion pour acheter chaque fois une nouvelle paire de lunettes, plus originale et élégante. Après ce diagnostic, je n'ai plus vu que des jeunes. Ils étaient partout. Dans les rues, dans les magasins, attablés aux terrasses des cafés, pédalant sur leur vélo, en couple, en groupe, avec des bébés. Une invasion de jeunes, une déferlante. Ils occupaient tout l'espace. Où que j'aille, j'étais la plus âgée. Une pensée inconnue m'est alors venue. J'étais sur la pente descendante de ma vie. Je n'avais jamais pensé à la vieillesse, jusqu'à ce que mon corps m'impose son évidence. Isabelle, voici la vieillesse, elle est encore discrète, mais prendra de plus en plus de place. Accueille-la. Tout en moi a résisté à cette injonction. Je m'étais toujours enorgueillie d'avoir surmonté les défis physiques et psychologiques. J'étais fière de mon indépendance et de ma liberté, les fils conducteurs de ma vie. Je ne savais ni ne pouvais exister autrement. Il fallait bien pourtant faire face à cette situation nouvelle. Mais cette fois, j'étais privée de mes défenses habituelles. il faudrait trouver d'autres recours pour me confronter à cette réalité, d'autres repères pour apprendre à être autrement. Nous écoutons, pour terminer cette émission, le titre de Anne Sylvestre, « Je suis une vieille dame ».
Cet oiseau qui n'arrête pas, qui es-tu, toi qui te déguises? On ne t'approche pas de moi. La jeunesse est là qui s'aiguise, qui se tait, qui baisse les yeux. Oh, vous pouvez ricaner, Lise, vous ne ferez ni plus, ni mieux, ni plus, ni mieux. Je suis une vieille dame, ne me touchez pas. Je suis bien, mais comme c'est dur, ça ne se fait donc pas d'un coup. La jeunesse qui se gaspille, gardez-en, mon Dieu, gardez-en. Je me sentais encore fille, je dois avoir 80 ans.
Chers auditeurs, je vous laisse sur ces réflexions et je vous dis à bientôt.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain des